VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
18h30 en temps universel, le monde aujourd'hui en direct de Washington, au micro d'Ilidico. Bonsoir. À la une de l'actualité ce jeudi 13 juillet 2023, en RDC, un opposant congolais proche de Moïse Katumbi retrouvé mort à Kinshasa. Le Ghana expulse plus de 200 déplacés burkinabés. 300 Kényans arrêtés suite à des manifestations. Joe Biden à Helsinki pour célébrer l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Ne manquez pas notre rubrique sport et la Minute Éco. Tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, un opposant, député et ancien ministre, Chérubin Okende, a été retrouvé mort ce jeudi à Kinshasa. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Selon l'entourage de Moïse Katumbi, Chérubin Okende, cadre de son parti, s'était rendu mercredi à la Cour constitutionnelle et depuis, ses proches n'ont pas eu de nouvelles de lui. Il a été retrouvé mort ce matin, le corps criblé de balles, dans sa voiture sur une grande avenue de Kinshasa. Le gouvernement a appris avec effroi l'assassinat de Chérubin Okende, a indiqué sur Twitter le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Il condamne cet acte qu'il qualifie d'odieux et instruit tous les services de sécurité pour une enquête minutieuse afin de faire la lumière sur cette affaire. M. Okende, 61 ans, a démissionné en décembre dernier de son poste de ministre des Transports, en même temps que deux autres ministres pro-Katumbi. Moïse Katumbi venait alors d'annoncer sa candidature à la présidentielle, prévue en décembre prochain, et le retrait de son parti de la coalition au pouvoir. Le président Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis 2019, est candidat à sa propre réélection.
Au Kenya, au moins 9 personnes ont été tuées durant les manifestations organisées contre de nouvelles taxes imposées par le gouvernement du président William Ruto. Plus de 300 personnes, dont un parlementaire, ont été également arrêtées à l'issue de ces protestations interdites par les autorités. Le point avec Jacques Aristide.
Les rassemblements tenus ce mercredi dans plusieurs villes du pays ont été émaillés d'affrontements tout au long de la journée entre manifestants et forces de l'ordre. Les premiers lançant des pierres, les seconds répliquant par des tirs de gaz lacrymogène et à balles réelles. Pour le ministre de l'Intérieur, les individus appréhendés, dont le député, ont directement ou indirectement planifié, orchestré ou financé les manifestations violentes et les actes d'anarchie. Kithure Kindiki affirme qu'ils seront poursuivis de diverses infractions pénales. Il ajoute que la recherche d'autres responsables est en cours, tout en vilipendant le hooliganisme et l'anarchie. Dans le bidonville de Kangeni à Nairobi, 53 enfants ont été hospitalisés, certains inconscients, après le tir de gaz lacrymogène près de leur salle de classe. À l'origine de la mobilisation antigouvernementale, l'opposant Raila Odinga, maintes fois candidat malheureux à l'élection présidentielle, accuse la police d'avoir tiré, blessé et tué des manifestants. La Commission des droits de l'homme du Kenya a demandé l'ouverture d'une enquête sur tous les incidents impliquant les forces de l'ordre.
Au Zimbabwe, le président iranien Ebrahim Raisi a été chaleureusement accueilli ce jeudi pour la dernière étape de sa tournée africaine. Sur le tarmac, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa s'est adressé à son homologue iranien en l'appelant « mon frère ». « Quand vous le voyez, vous me voyez. Quand vous me voyez, vous le voyez », a déclaré M. Mnangagwa à la foule. Il a ajouté qu'il est essentiel que les nations visées par des sanctions occidentales s'unissent pour atténuer l'isolement international. En Côte d'Ivoire, les personnes tatouées ne sont plus les bienvenues dans la gendarmerie ivoirienne, dont le commandant, le général Alexandre Apalo Touré, estime que l'on peut s'interroger sur leur état d'esprit. Les tatouages sont interdits, a lancé le général lors d'un discours cette semaine à des élèves officiers, considérant qu'ils étaient incompatibles avec les valeurs de la gendarmerie. Plus de 200 Burkinabés, dont des femmes et des enfants, sont arrivés dans le sud-ouest du Burkina Faso après avoir été expulsés du Ghana voisin. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Il y a une opération d'expulsion en cours chez nos voisins au Ghana depuis le 11 juillet, a confirmé Bourema Sawadogo, le gouverneur de la région du sud-ouest frontalière du Ghana. Plus de 200 personnes ont été accueillies au niveau d'Ouessa, première ville après la frontière, où un centre de transit a été mis en place pour accueillir ces déplacés, a-t-il précisé. Un recensement est en cours. Un des expulsés a expliqué à des médias locaux ne pas savoir pourquoi il avait dû quitter le Ghana avec certaines personnes qui y vivaient depuis plus de 10 ans. Le HCR a fait part de sa préoccupation et a appelé à mettre fin à ces expulsions qui constituent une violation du principe de non-refoulement et à garantir l'accès au territoire et l'asile aux ressortissants du Burkina Faso. Le ministère ghanéen de la Sécurité nationale a réfuté ces allégations. Un processus de rapatriement a été institué pour faciliter le mouvement des Burkinabés qui souhaitent retourner dans leur pays, souligne un communiqué.
Les 7 pays voisins du Soudan ont réclamé ce jeudi, lors d'un sommet en Égypte, l'aide des bailleurs internationaux pour accueillir plus de 700 000 réfugiés soudanais. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé la communauté internationale à tenir sa promesse et à envoyer au Soudan 1,5 milliard de dollars. Toujours en rapport avec le Soudan, l'ONU a indiqué que les corps d'au moins 87 personnes tuées le mois dernier par les forces paramilitaires et leurs alliés ont été enterrés dans une fosse commune au Darfour. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, demande une enquête rapide, approfondie et indépendante.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministère français des Affaires étrangères a effectué un signalement aux autorités judiciaires après la révélation par Juan Branco, avocat de l'opposant Ousmane Sonko, de l'identité de fonctionnaire de l'ambassade de France au Sénégal. Le Quai d'Orsay a déclaré qu'au regard des agissements de M. Branco, il a procédé au signalement qui s'imposait auprès des autorités compétentes. Il appartient à ces autorités d'en apprécier la suite à donner. Le parquet de Paris a confirmé avoir reçu ce signalement qui est en cours d'examen. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a exhorté les syndicats de la fonction publique à mettre fin aux grèves et accepter la dernière offre d'augmentation du gouvernement au premier jour d'une grève d'une durée inédite chez les médecins. Il n'y aura plus d'autres discussions salariales. Nous ne négocierons pas de nouveau, a affirmé Rishi Sunak. Le président des États-Unis, Joe Biden, effectue depuis hier soir une visite en Finlande, pays voisin de la Russie, qui a fait en avril une entrée historique dans l'OTAN. Il s'agit de la dernière étape de la tournée européenne qu'il a entamée dimanche soir à Londres. Mahamadou Mfa.
L'avion présidentiel Air Force One en provenance de Vilnius, où se déroulait le sommet annuel de l'OTAN, s'est posé hier vers 19h GMT à l'aéroport international d'Helsinki. Joe Biden a entamé cet après-midi une rencontre avec son homologue Sauli Niinisto, ainsi qu'avec les dirigeants des autres pays nordiques, la Suède, le Danemark, la Norvège et l'Islande. Les discussions ont porté sur la coopération entre les pays nordiques et les États-Unis sur les questions de sécurité, d'environnement et de technologie, selon la présidence finlandaise. Nous nous tenons avec le peuple courageux d'Ukraine au moment où il se défend contre l'attaque brutale de la Russie, a déclaré le président américain devant les journalistes. L'Ukraine deviendra membre de l'OTAN, mais pas tant que la guerre fait rage entre Moscou et Kiev, a ajouté le président américain. La Finlande, qui partage avec le territoire russe une frontière de plus de 1300 km, était jusqu'à l'invasion de l'Ukraine un avocat du dialogue entre les Occidentaux et la Russie. Tournant la page de décennies d'une neutralité exigée par la Russie après la Seconde Guerre mondiale, puis de non-alignement militaire depuis la fin de la guerre froide, la Finlande est devenue le 4 avril le 31e membre de l'Alliance Atlantique.
La Chine et la Russie vont accroître leur coopération. Le patron de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a affirmé aujourd'hui à Jakarta que Pékin va renforcer ses liens en matière de communication et de coordination stratégique avec Moscou. De son côté, Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie et la Chine maintiennent des échanges de haut niveau et qu'une rencontre en mars entre le président Vladimir Poutine et le président Xi Jinping a insufflé une forte dynamique aux relations bilatérales. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Claire Morin-Gibourg.
À Madagascar, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a présenté lundi une stratégie nationale de formation agricole et rurale étalée sur la période 2023-2035. Elle vise à mettre en place un dispositif de formation adapté aux défis actuels de la modernisation du secteur agricole. Sur la Grande Île, l'agriculture représente environ près de 22% du PIB et emploie environ 80% de la population active. Le Gabon et la Guinée équatoriale viennent de signer un contrat d'achat-vente d'énergie électrique. Les deux pays partagent près de 600 km de frontières et les localités gabonaises de Bitam, Oyem et Médouneux seront électrifiées depuis Mongomo, Akurenam et Ebebinin en Guinée équatoriale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a averti ce jeudi le chef de la diplomatie chinoise que Washington tiendrait les pirates informatiques pour responsables des violations présumées à l'encontre d'entreprises américaines et d'agences du gouvernement. Les responsables devront rendre des comptes, a-t-il ajouté.
Place au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Dili, bonsoir à tous.
Les demi-finales de l'AfroCAN se jouent ce jeudi.
Oui, le Maroc s'est fait une place dans le dernier carré en disposant du Kenya 55-46. En demi-finale demain vendredi, les Lions de l'Atlas locaux vont affronter l'équipe championne en titre, la République démocratique du Congo, qui a battu in extremis le Nigeria 74-72.
NBA, l'heure de la retraite n'a pas encore sonné, déclare LeBron James.
La superstar de la NBA et des Los Angeles Lakers, qui aura 39 ans en décembre, a déclaré être toujours animé par l'amour du jeu et que l'heure de sa retraite n'a pas encore sonné. Je me fiche de savoir combien de points je vais encore marquer et ce dont je suis encore capable de faire sur un parquet, a déclaré LeBron James après avoir reçu une récompense lors de la cérémonie des ESPY Awards, événement créé par le groupe audiovisuel ESPN. Il a été honoré pour être devenu en février le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA devant Karim Abdul-Jabbar. La vraie question que je me pose est, puis-je encore jouer sans tricher? Le jour où je ne pourrai plus rien donner sur le terrain sonnera le glas de ma carrière, a ajouté le quadruple champion NBA.
En athlétisme, Eliud Kipchoge sera de retour au marathon de Berlin en septembre.
Le Kenyan, légende de la course à pied, va s'aligner au marathon de Berlin le 24 septembre, où il avait établi un nouveau record du monde en 2022. L'annonce est faite par son équipe, Eliud Kipchoge, qui visera à Paris en 2024 un troisième titre olympique inédit en marathon. Après 2016 et 2021, cherche à se relancer. Après avoir subi une rare défaite lors du marathon de Boston en avril 6e, il dit espérer s'imposer une cinquième fois à Berlin. Après 2015, 2017, 2018 et 2022, il y a souvent brillé avec deux records du monde. Dans sa quête de records, le Kenya avait annoncé vouloir remporter les 6 marathons majeurs. Après Berlin, Londres, Chicago et Tokyo, il lui manque toujours Boston et New York. Ce dernier prévu en novembre, auquel il a préféré Berlin.
Football Al Nassr provisoirement privé de recrutement.
Le club saoudien où évolue le quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo se voit interdit de recruter tant qu'il n'aura pas réglé ses dettes, a indiqué la FIFA. La formation saoudienne est actuellement empêchée d'enregistrer de nouveaux joueurs en raison de dettes impayées, explique une porte-parole de la FIFA. L'instance mondiale n'a pas précisé le montant et l'origine de ces dettes, le point de départ de cette interdiction, ni si elle compromettait le transfert du milieu de terrain croate de l'Inter Milan, Marcelo Brozovic, qui a signé début juillet à Al Nassr. Mais en octobre 2021, la commission du statut de joueur de la FIFA avait condamné Al Nassr a réglé au club anglais de Leicester 460 000 euros plus les intérêts dans un litige portant sur le transfert du Nigérien Ahmed Moussa, conclu pour un montant de 18 millions d'euros.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Dilly Dico, de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Une nouvelle initiative au Sénégal pour lutter contre la mendicité des enfants talibés. Une campagne baptisée Walou Talibé Yi, ou Protéger les talibés en Wolof, a été lancée dans la capitale sénégalaise. Elle est financée par l'USAID et sera mise en œuvre par l'ONG Save the Children. Mais pour Issa Kouyaté, directeur de la Maison de la Gare, une ONG basée à Saint-Louis qui s'active dans la protection des enfants talibés, il faut d'abord appliquer la loi en la matière.
Effectivement, ce n'est pas pour la première fois. Je ne pense pas que ce sera aussi la dernière. Pourquoi je suis un peu sceptique là-dessus? Il y a beaucoup de choses au préalable qu'il faudrait qu'on fasse. Tant qu'il n'y a pas de décret qui a été mis en place et qui n'est pas appliqué, absolument rien ne va aller.
Oui, donc la loi pour la protection des enfants existe, mais pour vous, c'est son application qui pose problème. Et pourquoi?
L'application de la loi cause problème depuis des années. Parce qu'effectivement, comme vous avez bien dit, monsieur, il a été question de stopper la mendicité durant le président Abdoulaye Wade. Et même d'ailleurs, durant le président Macky Sall, l'application de la loi a été vraiment mise sur le plan international pour au moins que les gens, les marabouts, les chefs religieux, tout a pu suivre. Et ça n'a pas suivi, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Pourquoi? Parce que l'application de cette loi-là vient à bout de certaines maîtres coraniques, et bien je dirais certains chefs religieux qui défient cette application de la loi. Donc il y a des enfants qui mendient et qui sont forcés à mendier et qui sont, je ne dirais même pas forcés à mendier, mais qui sont forcés à porter des habits de mendiant. C'est-à-dire, avant même d'aller mendier, il faut que tu portes des habits de mendiant. C'est-à-dire, ils ont leur propre habit de travail.
Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut renforcer la sensibilisation au niveau des foyers religieux ou il faut être répressif?
Avant tout, M. Abdelman, la première des choses à faire, c'est de retourner à la racine, c'est-à-dire de faire un recensement déjà du nombre d'enfants. Et ce recensement-là, ça doit être une obligation dans toutes les régions du Sénégal, ratifier toutes les régions, faire un recensement, voir le nombre et en même temps voir les nationalités. La centralisation doit venir sur ce point-là. La formalisation de ces dara, bien qu'on a des dara traditionnels, mais tout doit être formalisé parce que c'est une éducation. Les deux obligations, c'est l'éducation formelle, c'est l'école, mais aussi l'éducation religieuse.
C'était Issa Kouyaté de l'ONG La Maison de la Gare. FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24. La jeunesse en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Sénégal est durement touchée par les conséquences dévastatrices de la drogue. Les répercussions de ce fléau se font sentir à tous les niveaux. Les effets néfastes se propagent dans le tissu social, entraînant des ruptures familiales, des perturbations économiques et des conséquences graves sur la santé physique et mentale des jeunes. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Dakar Mohamed Camara, chargé de programme du réseau des organisations Jeunesse africaine Leader des Nations Unies pour atteindre les objectifs de développement durable ODD du Sénégal.
Je peux dire que l'impact du trafic de drogue sur la jeunesse en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sénégal, est vraiment énorme. Et quand on parle de ces impacts-là, ça veut dire que beaucoup de jeunes qui utilisent ces stupéfiants sont souvent confrontés à de nombreux problèmes, à savoir des problèmes mentaux. Ils sont souvent considérés à la longue d'utiliser ces produits-là, ils sont souvent fous ou folles. L'autre chose, c'est que en fait, ça impacte les manières de vivre. En fait, la plupart des personnes qui commencent à utiliser ces drogues-là sortent souvent ils ont d'autres fréquentations et ils ne sont pas souvent interprétés de manière bien au niveau de la société. L'autre chose, c'est que ça gâte leur manière de vivre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vie assez stable à force d'être chronique assez différentes de ce que tu veux. Et la plus, ces différentes causes sont que ça impacte de manière directe la vie des jeunes qui les vivent. Ce qui va forcément impacter leur pouvoir, leur capacité d'impacter leur communauté, ce qui va impacter leur capacité de rendre service à leur communauté. Et que la plupart de ces personnes-là sont réservées à eux-mêmes et ne contribuent pas carrément au développement. Parce que quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés ou qui n'a pas toutes ses capacités, toutes les capacités nécessaires à rendre service, ne peut pas aider au développement de sa communauté. Et aujourd'hui, nous travaillons à ce que les jeunes puissent être des acteurs de développement, puissent être des acteurs de changement pour leur communauté. Et l'utilisation de ces différentes institutions, en fait, freine carrément la participation des jeunes au développement socio-économique de leur pays.
Et quelle est l'approche privilégiée par votre organisation pour lutter contre ce trafic de drogue et ses conséquences sur la jeunesse en Afrique de l'Ouest?
Bah, nous, notre approche, c'est de sensibiliser le maximum les jeunes sur les dangers de la drogue, mais surtout de les conscientiser à avoir des comportements responsables. Parce qu'aujourd'hui, un jeune, pour qu'il soit productif, il faut que ce jeune-là puisse avoir toutes ses facultés mentales, physiques et intellectuelles. Alors, quand on utilise ces différentes stupéfiants, on a ce déficit de capacité mentale, ce déficit de capacité intellectuelle et.
Mohamed Camara, chargé de programme du réseau des organisations Jeunesse africaine Leader des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs de développement durable au Sénégal. Dans la région de Badiangara, dans le centre du Mali, la crise sécuritaire a entraîné la fermeture de nombreux établissements touristiques. Cependant, cette année, la reprise des festivals du plateau Dogon suscite un regain d'espoir pour le retour de la paix et la relance complète des activités touristiques. Ces festivals sont considérés comme un moteur économique vital pour la région. De Koro, la correspondance de Tijani Ouedraogo.
La falaise de Badiangara est un haut lieu du tourisme qui fascinait des milliers de visiteurs chaque année. Une région qui regorge de nombreux sites touristiques, mais la situation sécuritaire a complètement secoué le secteur. Comme Hadi Bindou, beaucoup de promoteurs touristiques profitaient bien du dynamisme du secteur avant la crise sécuritaire au Mali.
Dans ma galerie, il y a de l'artisanat. Et pendant la période touristique, les touristes venaient visiter et il y a d'autres qui achetaient aussi. Bon, dans l'achat, je profitais et mes artisans qui venaient me vendre des sculpteurs, ils profitaient beaucoup. Mais depuis que le tourisme a baissé, bon, voilà des objets qui sont là et qui sont en train de pourrir.
Une situation qui a conduit beaucoup de guides touristiques au chômage. Suleiman Guiré est un ancien guide. Il était au chômage pendant des années avant de créer sa propre entreprise.
Bien avant, au moment où le pays était stable, moi je vivais du tourisme, je suis un guide touristique. Au moment où l'insécurité a envahi le Mali, on a souffert au moins 1 an, 2 ans, et après on s'est dit que okay, bref, il faut se débrouiller et faire quelque chose. Maintenant là, tu vois, les préférés que tu vois là, maintenant actuellement c'est ce que j'ai fait moi.
Beaucoup de sites touristiques sont dans un état de dégradation avancée. Cette année, la reprise de certaines activités touristiques au pays de Gon constitue un espoir pour la région. Et Rebecca Togo ne cache pas ses sentiments.
Ça prouve que la paix est de retour progressivement. Sinon, il y a de cela quelques années, organiser un tel festival était pratiquement impossible dans notre zone ici.
Pendant une semaine, des festivaliers venus de l'intérieur du pays ont revisité la diversité du pays de Gon à travers chants et danses. Yobuyu Togo est une festivalière.
Je suis très contente et très ravie. Le Mali a besoin de ça aujourd'hui, là où nous sommes. Réunir ces dignes autour de la culture, de la paix et la cohésion sociale.
Une reprise étant souhaitée pour permettre à des milliers de touristes de revisiter la beauté du plateau d'Ouandé-Sanga, les masques de Irili et les sites d'eau de Ndé. Tidjane Ouédraogo, Koro, VOA Afrique.
Washington Forum cette semaine avec Alexandrine Collognon est consacré au sommet de l'OTAN. La réunion des 31 dirigeants des pays de l'Alliance a lieu mardi et mercredi à Vilnius en Lituanie et se penche entre autres sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. La Russie a déjà mis en garde l'OTAN sur les conséquences très négatives pour la sécurité européenne d'une adhésion de l'Ukraine. Par ailleurs, le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné lundi son feu vert à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Quels sont les enjeux de la volonté de Kiev de rejoindre l'Alliance? Rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum à 19h universel sur VOA Afrique et sur voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. La Gen Z, génération Z, nom donné aux personnes nées entre 1997 et 2012, entre actuellement dans le monde du travail. Les personnes les plus âgées de cette génération sont désormais des adultes. Mais pour beaucoup, les signes traditionnels de l'âge adulte, à savoir un emploi stable et une maison, ne font pas encore partie de leur plan de vie. Karina Bafrajan s'est penchée sur la question. Arzuma Compaoré raconte.
La génération Z, à savoir les personnes nées à partir de 1996, est un groupe plus diversifié sur le plan racial et ethnique que les générations précédentes. En tant que jeunes adultes, les Zoomers, comme on les surnomme, ont tendance à pencher vers des politiques libérales, mais ils ne sont pas non plus un ensemble homogène. Brian A. Marx, économiste politique.
La génération Z a tendance à mettre de côté l'appartenance à un parti et à se concentrer sur les questions politiques en particulier.
Les étudiants d'université qui auront le droit de voter lors de l'élection présidentielle de 2024 disent qu'ils gardent un œil sur la façon dont les politiciens réagissent à une série de décisions conservatrices de la Cour suprême des États-Unis, y compris celles sur le droit à l'avortement et les admissions à l'université. Émilie Dalmy qualifie ses opinions politiques de centristes.
Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes retournés 100 voire 150 ans en arrière à cause des questions liées à l'avortement, à la discrimination positive ou aux droits des personnes LGBTQ.
Preston Raven, étudiant en deuxième année de journalisme à Austin University, n'est pas mécontent de la récente décision de la Haute Cour de mettre fin aux admissions fondées sur la race dans les universités.
Ils devraient examiner votre candidature et se baser sur le contenu, et non sur votre race. Même si je suis une personne de couleur, je pense que tout le monde devrait être sur un pied d'égalité.
Les droits des femmes et les politiques économiques pourraient influencer le vote d'Elizabeth Andrews.
Le droit à l'avortement a certainement été au centre de mes préoccupations au cours de l'année écoulée, de même que les prêts étudiants, bien sûr.
Il est toutefois trop tôt pour savoir si et comment le vote de la Gen Z pourrait influencer les résultats des élections de 2024. Andra Gillespie est professeur de sciences politiques à l'université Emory.
Entre un jeune de 20 ans et une personne de 45 ans, la personne de 45 ans ira plus facilement voter parce qu'elle a déjà fait l'expérience du vote et qu'elle comprend mieux comment la politique fonctionne.
Tout en réfléchissant aux récentes décisions de la Cour suprême, Oishi Mukopa Diaya, une étudiante de 20 ans, s'interroge sur le taux de participation de la génération Z aux élections de l'année prochaine.
Je voterai certainement, mais je pense que mes pairs sont partagés sur la question, car certains d'entre eux pensent que leur vote ne compte pas.
Alors, que peuvent faire les hommes politiques pour changer cette perception?
Roberto Destro est professeur de droit à l'Université catholique.
Ce qu'il faut faire, c'est s'asseoir et parler aux électeurs de la Gen Z. Si nous les écoutons, ils nous diront ce qui les préoccupe.
Les analystes soulignent que les nouveaux électeurs de la Gen Z, la génération Z, auront également besoin de conseils sur la manière de s'inscrire sur les listes électorales, car ils commencent tout juste à se familiariser avec le processus électoral américain.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Josèle Morissin, Dilidico à la présentation.